France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans les incendies de Los Angeles.
Nous sommes dévastés. Ça fait 70 ans que notre famille vit ici. Mon école, mon lycée, mon église, tout a été balayé.
C'est le témoignage d'une habitante d'Altadena prise au micro de Sandrine Eto'o-Handeg au plus fort des incendies il y a quelques semaines seulement. Bonsoir Michel Lussault.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, vous êtes professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes professeur invité en ce moment à l'Université d'Ottawa. C'est là que vous êtes ce soir et vous avez écrit « Cohabitons » avec un point d'exclamation pour une nouvelle urbanité terrestre publiée aux éditions du Seuil. Les incendies de Los Angeles, Michel Lussault, sont presque maîtrisés désormais, mais les dégâts qui ont été faits à Malibu, à Pacific Palisade et autour, c'est comme si plus d'une fois et demie la surface de Paris avait brûlé, pour en avoir une idée. C'est colossal. Je voudrais tester votre degré d'optimisme. Est-ce que vous vous dites, eh ben, on aura au moins appris quelque chose désormais, tout peut changer? Ou est-ce que vous vous dites, de toute façon, demain tout recommence, on ne saura pas tirer les leçons de ces événements?
Écoutez, plutôt la deuxième solution, si l'on savait tirer les conséquences des événements, ça se saurait depuis le temps, d'autant qu'en matière de méga-feux, cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'on sait que ces feux sont très caractéristiques de l'époque et sont tout à fait liés à un certain nombre de conséquences du réchauffement climatique. En réalité, depuis 2013, on a fait le diagnostic qu'apparaissaient de nouveaux types de feux, ce qu'un forestier américain, Jerry Williams, a appelé donc les méga-feux, des feux qui ne sont pas caractérisés tant par leur étendue que par leur intensité. En fait, pour le dire rapidement, des feux qui ne sont plus maîtrisables par l'homme, qui, lorsqu'ils se sont déclenchés, brûlent absolument tout sur leur passage. Ces méga-feux peuvent être observés dans des régions non habitées. Il y en a eu de considérables un peu partout au monde depuis une quinzaine d'années, y compris en Sibérie, au Québec, au Canada, en Australie, que sais-je. Mais parfois, ils traversent des régions densément peuplées, comme Los Angeles. Mais là, rien n'y fait non plus. On ne peut absolument pas les contrôler. Et c'est ce que nous avons observé. Et finalement, on a l'impression que toutes ces répétitions d'événements ne servent pas à grand-chose.
Je ne voudrais pas appuyer sur votre pessimisme, mais j'ai sous les yeux l'ordre exécutif qui a été signé par le gouverneur Gavin Newsom. C'était il y a quelques semaines seulement, pour que les propriétaires de maisons, tenez-vous bien, qui ont brûlé, reçoivent des permis de construire sans délai, quitte à ne pas respecter toutes les normes environnementales en vigueur. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ça?
Eh bien, il y a des études qui ont été menées en Californie et dans le sud-ouest américain, qui sont des régions qui brûlent constamment depuis une bonne vingtaine d'années, qui montrent que, effectivement, les destructions ont été très souvent suivies, grâce d'ailleurs aux assurances et aux libéralités gouvernementales, ont été suivies par des reconstructions en pire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne tenaient absolument pas compte des méga-feux et de ce qu'ils auraient pu nous enseigner. Des constructions qui pouvaient s'observer dans des zones forestières, dans des zones avec des pentes très importantes, avec des grandes difficultés d'accès pour les secours. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a une sorte de volonté de ne pas savoir, volonté de ne pas voir, que ces méga-feux en fait nous informent sur le fait que l'habitabilité peut-être de la Californie aujourd'hui est à mettre en question en raison à la fois des effets du réchauffement climatique, mais aussi des types de développement urbain qu'on a choisi ici depuis des décennies.
Alors justement, et on va y venir, dans un monde idéal, Michel Lussault, est-ce que on ne reconstruit pas ce qui a été détruit? On ne refait pas Pacific Palisade, on ne refait pas la partie de Malibu qui a été totalement brûlée, on repense toute la zone, on ne reconstruit pas. Dans un monde idéal, c'est ça ou pas?
Eh bien, prenons un autre exemple. Lorsqu'il y a des inondations absolument terribles, comme celle qu'il y a eu à Valencia ou jadis dans la Vallée de la Roya, naguère, il n'y a pas si longtemps, faut-il reconstruire, par exemple, dans les espaces dont on sait pertinemment qu'ils seront de nouveau inondés en raison de ce que l'on sait de l'évolution des variabilités météorologiques? Eh bien non, il faut apprendre à vivre avec l'inondation, comme le propose l'architecte Éric Daniel Lacombe. Et apprendre à vivre avec l'inondation, c'est accepter aussi de changer les modalités de construction et peut-être de changer la conception que nous avons de ce qui est constructible et ce qui ne l'est pas. Eh bien, il faudrait faire exactement la même chose avec les feux, de même qu'il faudrait le faire lorsque nous savons que des zones seront exposées à des températures tempêtes importantes, à des ouragans importants. En fait, il faudrait se préparer et prévenir. Se préparer aux catastrophes, parce qu'on sait qu'elles viennent, et prévenir que ces catastrophes ne soient pas si dévastatrices qu'ensuite les populations ne puissent plus assurer leur vie dignement.
Après, la question qui se pose évidemment, Michel Lussault, imaginons effectivement qu'on ait compris ces leçons-là et qu'on se dise exactement comme on le dit effectivement du côté de Valence, il ne faut pas reconstruire à l'intérieur du lit d'un ruisseau, parce que c'est quand même comme ça qu'on a construit pendant si longtemps. Qu'est-ce qu'on fait de la population qui est grandissante, sachant Los Angeles, par exemple, on le sait déjà, avait des populations modestes, qui donc sont celles, par ailleurs, qui souvent ont tout perdu, qui sont les premières victimes et qui déjà, de toute façon, étaient en train de s'étaler, parce que les zones, y compris Pacific Palisade, par exemple, étaient devenues tellement chères, avaient pris une valeur de dingue, enfin, tout ça est inimaginable. Donc, tout le monde s'est, de toute façon, déjà étalé. Qu'est-ce qu'on fait de la population ?
Eh bien, vous posez là la question fondamentale. En réalité, ces catastrophes ne sont pas du tout naturelles. Ces catastrophes, elles témoignent du caractère insoutenable des modalités d'expansion urbaine qui sont celles que nous pouvons observer depuis plusieurs décennies. Vous avez cité la spéculation foncière immobilière, les prix complètement insensés des constructions, les populations pauvres qui sont poussées parfois dans des espaces qui sont de facto peu constructibles, et puis en même temps toujours la volonté, et c'est bien incompréhensible, de trouver un lieu pour résider, pour travailler. Donc que faudrait-il faire ? Eh bien, il faudrait faire de cela un grand sujet de débat politique. En réalité, il n'y a peut-être pas de sujet politique plus important que celui-ci. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, on voit les gouvernements locaux, régionaux, nationaux, aux États-Unis c'est manifeste, mais il y aurait beaucoup à dire sur le cas français, on voit tous les gouvernements mettre cette poussière sous le tapis et toujours nous dire, mais non, on va simplement trouver des solutions technologiques pour maîtriser les risques. Oui, mais ça ne marche plus. Et vous savez, il y a quelque chose qui fera que ça ne marchera plus pendant très longtemps, c'est qu'on s'aperçoit que les compagnies d'assurance, désormais, ne veulent plus assurer un certain nombre d'espaces. Et là, je pense que c'est la preuve que les choses sont en train de changer.
Mais j'allais vous poser la question, Michel Lussault, est-ce qu'au fond, si la prise de conscience n'est pas là, qu'elle soit sur le risque écologique, qu'elle soit sur l'urbanisation qui est arrivée effectivement à son maximum, est-ce que la prise de conscience ne va pas passer par là? Si les maisons deviennent toutes non assurables et donc non assurées, on finit par hésiter à s'y installer. Et ce processus, il a d'ailleurs déjà commencé. Il y avait déjà des zones non assurées.
Oui, en Floride, en Californie même, parce que en fait, la Californie brûle tous les ans depuis plus de 20 ans. C'est pour ça que c'est là qu'on a inventé le concept de méga-feu. Et d'ailleurs, le monde entier brûle tous les ans de plus en plus. Les méga-feux sont devenus une constante dans le monde, partout, en toute saison, avec parfois des millions d'hectares qui sont carbonisés. Donc, les assurances, elles vont rapidement tirer conséquence de la multiplication des événements catastrophiques dans des espaces très densément urbanisés. Les coûts seront tout simplement insupportables.
Mais c'est comme ça, finalement, qu'on repensera, en fait, de force, pas de gré, mais de force. Mais parce que c'est par le portefeuille qu'on prend les gens, là, on repensera la ville. Est-ce que vous pensez que, après tout, c'est triste à dire, mais la solution est là ?
Sans doute, est-ce un pis-aller en tout cas, mais moi j'aurais préféré qu'on en fasse une vraie question de débat social et politique, parce que finalement ça n'est pas simplement une question de reconstruction, c'est une question de définition des manières dont nous voulons cohabiter. Là je reprends le titre de mon ouvrage que vous avez signalé. Que voulons-nous faire pour notre cohabitation sur une terre qui est exposée de plus en plus aux conséquences du réchauffement climatique? On le sait désormais, même si le président des États-Unis et quelques-uns de ses soutiens tente de le nier. Que voulons-nous en matière de cohabitation ? Faut-il se contenter de considérer que ce sont encore une fois les acteurs économiques qui vont définir ce qui va se faire et définir ce qui va se faire en fonction de leurs intérêts à eux en tant qu'acteurs économiques ?
Vous avez cité effectivement la politique, le récit politique qu'on est en train de faire de la catastrophe. On l'a déjà entendu de la part du président Trump. C'est au fond d'en faire une affaire politique pour pouvoir affaiblir les démocrates. Mais repenser la ville, Michel Lussault, c'est pas seulement repenser la ville, ça veut dire qu'il faut repenser évidemment le travail, repenser les distances, repenser les transports, repenser tout un environnement. Si Los Angeles y est prêt, dites-le nous, mais j'en doute très fort.
Mais je crois que personne n'y est prêt. Vous savez, aujourd'hui, en fait, il faudrait remettre sur notre établi collectif et remettre au travail absolument toutes les questions. Comment produire ? Comment consommer ? Comment se déplacer? Comment se loger? Quel type d'éducation voulons-nous? Quel type de système de santé voulons-nous? Parce que c'est ça la cohabitation aussi. Mm-hmm. Quel type de justice sociale voulons-nous? C'est cela qu'il faudrait avoir le courage d'aborder. Nous n'en avons pas visiblement suffisamment de ce courage parce qu'il faudrait tout réinventer. Et malheureusement, l'être humain en société est souvent amené à préférer ses routines mm-hmm. parce que ses routines, elles ont au moins la puissance de la certitude et de l'habitude. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il faudrait accepter d'affronter les problèmes et nous ne le faisons pas.
Michel Lussault, l'origine du feu, on ne la connaît pas vraiment. Mais ce qu'on commence à voir, peut-être que vous l'avez croisé vous aussi, ce sont des théories sur une étincelle que des personnes ont vues et même filmées à Pasadena, si bien que les gens se retournent contre le fournisseur d'électricité. Et moi, je trouve ça assez fascinant parce que ça veut dire qu'on cherche un coupable. Et chercher un coupable et en trouver un, il y a même des gens qui ont déjà demandé réparation, c'est tellement plus rassurant au fond.
Ben évidemment, s'il y a quelqu'un qu'on peut identifier comme le responsable, ça évite de se poser la question de l'incroyable puissance de cet incendie, qui n'a pas été un incendie local, de la capacité de destruction de ce type de méga-feu. Finalement, si on peut identifier un coupable, alors la compagnie électrique, mm-hmm. le gouvernement de Californie qui n'a pas développé suffisamment de ressources en eau, alors que la sécheresse est absolument considérable. Si l'on trouve un responsable, eh bien on peut éviter de se poser les véritable question. Finalement, la véritable question, c'est la manière dont nous habitons aujourd'hui. La Terre est insoutenable. Mmh. Insoutenable économiquement, socialement et écologiquement. De plus en plus de travaux de recherche convergent vers ce constat qui est effectivement très inconfortable. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir accepter d'y réfléchir.
Mais ça veut dire aussi que... il vaut mieux ne pas savoir comment le feu est parti, en fait. Quand on y songe, et quand je vous écoute, il vaut mieux ne pas avoir cette réponse-là, pour pas effectivement pousser les gens vers « c'est la faute de celui-ci et celui-ci doit payer ».
Mais vous savez, il y a eu un film tout à fait étonnant qui avait été réalisé il y a quelques années par Adam McKay qui s'appelait Don't Look Up. Hein. C'était une mm-hmm. histoire d'une météorite qui s'écraser sur la Terre. Et tout le monde voulait ne pas voir, tout le monde voulait ne pas savoir, sauf quelques scientifiques. Eh bien, il y a aujourd'hui dans le monde entier ce que j'appelle, notamment chez les élites politiques, économiques et sociales, moins paradoxalement chez les habitants qui commencent à prendre conscience des difficultés, il y a souvent un syndrome Don't Look Up. Bien, je crois que le rôle d'un acteur politique, ça serait d'avoir le courage d'accepter de savoir et d'accepter de regarder les choses.
Au fond, c'est plus notre maison brûle et on regarde ailleurs, c'est notre urbanité n'est plus tenable et on regarde ailleurs.
Oui, de ce point de vue-là, le président Chirac avait tout à fait raison. Notre urbanité planétaire n'est plus soutenable et nous continuons de regarder ailleurs et de chercher des boucs émissaires.
Michel Lussault, passionnant Michel Lussault, vous êtes géographe, professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon et en ce moment à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, ça se passe en Colombie, où la lecture, figurez-vous, gagne du terrain et ça n'est pas si fréquent. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
En Suède, un conducteur ivre condamné, il n'était pourtant pas au volant d'une voiture.
Le monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. En Allemagne, la droite et l'extrême droite, main dans la main sur l'immigration, indignation au sein de la classe politique.
Et la tech, la première, Stéphane Jourdain, salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne, la Silicon Valley a-t-elle vraiment vécu son moment Spoutnik et où en est vraiment l'IA chinoise.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Dans Un jour dans le monde, il passe par Londres avec une chanteuse qui est dans la playlist de Barack Obama et dans celle de France Inter, Optala Phoenix. À tout de suite. You said don't hide, just walk in a straight line, don't you apologize when you're right. You said straight spine, take one step at a time, just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout, felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend.
feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive 'cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just
Le reportage d'un jour dans le monde est en Colombie ce soir, où figurez-vous que la lecture fait de la résistance. Chaque année, les Colombiens lisent un peu plus, notamment grâce au Festival de littérature, festival au pluriel. En ce moment, s'en déroule un qui prend de l'ampleur, le Festival de littérature internationale AI Festival. Et le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte.
Jerico est un village perché dans les montagnes à près de 2000 mètres d'altitude, à environ 2h30 de route de Medellín. Et malgré son isolement, il est connu pour être un village touristique aux façades de maisons multicolores. Depuis 7 ans, il accueille le Festival international de littérature AI Festival. Cristina Fuentes, directrice internationale du AI Festival.
C'est un travail de longue haleine. Au début, les visiteurs étaient vraiment des novices. Ça se sentait dans les questions qu'ils posaient aux auteurs en conférence. Elles n'avaient pas de lien avec leurs livres. Maintenant, souvent, le public vient en ayant lu les livres. Et on constate que les ventes de livres du festival sont en hausse. Et le secteur des éditeurs indépendants a grandi. Il y a aussi plus de librairies indépendantes. Il y a plus de festivals comme celui-là. C'est un succès, alors que les livres sont chers en Colombie. Il faut encore le rendre plus accessible au public, avec d'autres soutiens, stratégies, mais je note vraiment de grandes avancées.
Cette année, plus de 16 300 visiteurs ont fait le déplacement pour l'événement à Jerico. En 3 jours, Jerico double sa population. Alors, la file d'attente à la librairie du festival est longue et constante. Teresita Arias est de Medellín. Elle vit à Jerico depuis 3 ans. Elle attend depuis une vingtaine de minutes pour payer son livre.
Je suis là depuis ce matin. Ce festival est un moment important pour nous. Ça nous donne l'opportunité de découvrir de nouvelles choses.
Vous avez un livre dans la main, c'est quoi ?
C'est le livre de Juan Gabriel Vázquez. Je vais voir sa conférence. On m'a beaucoup parlé de ce nouveau livre, alors je vais l'acheter et le lire. Je connais bien cet auteur, j'ai lu plusieurs de ses livres. J'ai adoré l'un des derniers, Volver la vista atrás. J'aime bien ces romans qui ont un aspect historique.
En moyenne, les Colombiens lisent 3,5 livres par an. À Jerico, l'engouement de la lecture a même donné naissance à la première et unique librairie-café du village. Paula Ortiz, une graphiste et illustratrice de livres pour enfants, a ouvert l'établissement il y a 2 ans et demi.
La librairie La Danta y la Nutria est née comme projet culturel pour promouvoir la lecture et la littérature, principalement pour les habitants de Jerico et de la région sud-ouest d'Antioquia. Au début, les habitants ne savaient pas ce qu'était une librairie, ils pensaient qu'on était une bibliothèque. Le flux de visiteurs reste constant. Toute l'année, les week-ends sont bien chargés. À nos débuts, on n'avait que 250 titres. Aujourd'hui, on a plus de 700 titres. Et les ventes ont bien sûr augmenté puisqu'on a un catalogue plus ample. Sur ces 2 ans, la Danta y la Nutria a vu une croissance de 40%.
Après Jerico, AI Festival se rend à Medellín, puis Cartagena et Barranquilla, où des écrivains internationaux comme la mexicaine Cristina Rivera Garza, le prix Pulitzer 2024, ou l'écrivain américano-britannique Salman Rushdie et Richard Ford, l'une des voix anglo-saxonnes les plus acclamées de la littérature, seront présents. Jusqu'au 3 février, plus de 60 000 visiteurs et 170 auteurs et autrices nationaux et internationaux sont attendus.
Najat Ben Rabah pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. D'abord en Inde, que nous sommes, Kevin, où se déroule le plus grand pèlerinage du monde.
400 millions de fidèles attendus sur 6 semaines. Prayagraj, pardon, dans l'état de l'Uttar Pradesh, est une vraie fourmilière depuis maintenant 15 jours, hein, à l'occasion de la Mahakumbh Mela, le pèlerinage le plus important de l'hindouisme. Il n'a lieu que tous les 12 ans. Les fidèles viennent se baigner dans les eaux sacrées du Gange. Un moment de grande joie pour ceux qui parcourent parfois des milliers de kilomètres à travers le pays pour y participer. Des images de liesse tout en couleurs, mais aussi le théâtre de drames. Hier matin, une gigantesque bousculade a fait au moins 30 morts et près de 100 blessés. Il y en avait eu 36 selon les autorités indiennes lors du pèlerinage de 2013. Il faut dire que les mouvements de foule sont impossibles à contenir. Hein. En une demi-journée, rendez-vous compte, jusqu'à 10 millions de personnes s'immergent. 40 000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement et des outils d'intelligence artificielle sont déployés pour essayer de gérer les déplacements. L'opposition dénonce en Inde la mauvaise gestion de l'événement depuis hier.
Nous sommes en Suède avec une étonnante condamnation.
Ah oui, parce que ce que vous entendez là, c'est le bruit d'un drone. En juillet dernier, un homme faisait voler le sien à Dalarna, c'est dans le centre du pays, pour tourner des images d'un rassemblement de voitures anciennes. Sauf qu'il était interdit de survoler la zone à ce moment-là. La police a alors retrouvé le pilote, l'a contrôlé, et il s'avère qu'il avait près d'un gramme d'alcool dans le sang. Eh bien, c'est pour ça qu'il a été condamné pour conduite en état d'ivresse, comme s'il était au volant de sa voiture. Résultat, 2 700 € d'amende. C'est la première fois qu'une telle condamnation est prononcée. Le tribunal la justifie en estimant qu'il s'agit d'un engin motorisé qui peut tomber s'il est mal maîtrisé et blesser quelqu'un. La Suède est l'un des pays les plus répressifs concernant l'alcool au volant. La limite autorisée est de 0,2 g par litre de sang. C'est deux fois moins qu'en France.
Et puis nous sommes au Japon, à Otaru précisément.
Oui, sur Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel. Otaru, charmante ville portuaire d'un peu plus de 100 000 habitants qui attire de plus en plus de touristes. Et si c'est une aubaine économique, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Les visiteurs se pressent sur une avenue en particulier, sur les hauteurs de la ville, parce qu'on peut de là prendre de très jolies photos du port et de la mer, sauf que ça donne des comportements dangereux. Les photographes en herbe en plein milieu de la route ou sur les rails du tram pour prendre le cliché parfait. Au début du mois à Otaru, une touriste chinoise est morte heurtée par un train alors qu'elle prenait justement une photo. Alors cette semaine, la ville a décidé d'engager des agents de sécurité pour gérer uniquement ce phénomène. Ils mettent en place des cordons de sécurité, interpellent les imprudents avec leurs sifflets. Une nouvelle illustration d'un pays pas vraiment prêt à supporter le tourisme de masse, pourtant encouragé par le gouvernement, qui incite d'ailleurs les étrangers à visiter les régions du Japon comme Otaru, plutôt que les grands sites, justement. Il va donc y avoir de plus en plus de touristes à Otaru.
Merci beaucoup, Kevin. Vous partez avec le grand Tom Waits, Way Down in the Hole. Et si vous vous demandez, vous avez déjà entendu ce morceau dans la série The Wire.
C'est ça. When you walk through the garden, you gotta watch your back. I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
sword, and they'll shield you with their wings, and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. 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 You gotta help me keep the devil.
Tom Waits, Way Down in the Hole sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, en Allemagne, la droite a créé une vive polémique en s'associant à l'extrême droite lors d'un vote hier au Parlement. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi cette alliance inédite depuis 1945 pourrait annoncer une nouvelle ère politique.
Oui, ce qui s'est produit hier en Allemagne est assurément l'événement le plus marquant de la campagne des législatives qui auront lieu le 23 février. Les conservateurs de la CDU sont les grands favoris, vous le savez, du scrutin. Emmenés par Friedrich Merz, ils ont fait alliance avec l'AfD, le parti d'extrême droite, pour voter hier donc une motion appelant un tour de vis sur l'immigration. Merz en a fait un thème de campagne. La semaine dernière, un nouveau drame a remis l'immigration au cœur de l'actualité. À Aschaffenburg, en Bavière, une attaque au couteau a fait 2 morts, dont un enfant de 2 ans. L'auteur du crime est un Afghan en situation irrégulière.
Alors que dit la motion votée hier ?
Elle demande le renforcement des contrôles aux frontières, l'expulsion des clandestins et une interdiction d'entrer en Allemagne à tous les immigrés sans papier, y compris les demandeurs d'asile. Bon, alors le texte ne change rien à la loi, il n'est pas contraignant, mais son approbation provoque un séisme dans la vie politique allemande. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grands partis refusent toute collaboration avec l'extrême droite. L'histoire pèse lourd et le cordon sanitaire n'avait jamais été rompu en 80 ans. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, adversaire de Friedrich Merz, parle d'une erreur impardonnable de la CDU. Il accuse son rival conservateur de violer le droit européen et le compare au premier ministre hongrois pro-russe Viktor Orban, un épouvantail en Allemagne.
Et même Angela Merkel se joint aux critiques.
Oui, l'ancienne chancelière qui sort rarement de sa réserve a publié aujourd'hui un communiqué visant son propre parti. Elle rappelle que Merz a lui-même proposé de ne jamais s'allier à l'extrême droite. Merkel qualifie d'erreur la décision du patron de la CDU de permettre ce vote. Il faut préciser que Friedrich Merz n'a pas sollicité le soutien de l'AfD. Dans la motion, l'extrême droite est même présentée comme un adversaire politique, mais le chef de la CDU et probable futur chancelier savait bien que l'AfD voterait pour le texte. Il assure qu'il ne cherche pas d'autre majorité que celle qui se trouve au centre démocratique. Ça n'empêche pas l'AfD, bien sûr, de crier victoire. Une nouvelle ère commence, estime un de ses députés, Bernd Baumann. Monsieur Merz, vous avez contribué à la faire émerger.
Et pour vous, Franck, c'est en effet le début d'une nouvelle ère.
Ben oui, on peut répéter que la motion est non contraignante, que c'est un vote symbolique, que la CDU ne s'est pas coordonnée avec l'AfD. On peut même supposer que la polémique va faire perdre des voix à la droite. Ces électeurs modérés pourraient se tourner vers un autre parti. Et tout ça ne permettra pas à l'AfD, sauf énorme surprise, d'intégrer un gouvernement allemand après les élections. La droite fera sans doute alliance avec les sociaux-démocrates, voire les Verts. Mais Fabienne, indiscutablement, le parti d'extrême droite remporte une victoire qui fera date. Il peut désormais se présenter comme une formation respectable. À un moment où le nationalisme a le vent en poupe dans le monde entier, au premier chef aux États-Unis, et il gagne aussi la bataille des idées sur l'immigration. Elle est loin, la politique d'accueil des réfugiés syriens de 2015-2016. Viktor Orban s'adresse à Scholz et à l'Allemagne dans un message sur X. Bienvenue au club.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18 juin.
Et Stéphane, cette semaine, vous nous parlez de l'irruption tonitruante de DeepSeek, cette IA chinoise aux performances remarquables qui donne mal à la tête à la Silicon Valley.
Et on commence, Fabienne, avec cette expression qui fait le tour du monde depuis lundi.
It's kind of like a Sputnik moment.
Was sich hinter DeepSeek verbirgt, Sputnik-Moment sprechen.
Some are calling it AI Sputnik moment.
Estamos perante um momento Sputnik.
DeepSeek, c'est le moment Sputnik de l'intelligence artificielle. Et oui, je m'autocite.
On n'est jamais mieux cité que par soi-même.
Ça s'appelle prendre la confiance. Le moment Sputnik de l'intelligence artificielle, on doit l'expression à Marc Andreessen, un des investisseurs les plus importants de la Silicon Valley. Moment Sputnik, quand la stupeur qui gagne la Silicon Valley rappelle l'émoi qui a saisi tout le pays quand l'URSS a envoyé un satellite dans l'espace pour la première fois. C'était en 1957, point de départ d'une mobilisation américaine tous azimuts, création de la NASA et premier pas sur la Lune 12 ans plus tard.
Alors est-ce que c'est mérité ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment Sputnik cette semaine ?
Alors premier élément de réponse, avec cette archive, on est en 2021, c'est une sommité de la tech qui parle, Alexander Karp, président de l'entreprise d'analyse de données Palantir.
L'Amérique est au tout début d'une révolution et cette révolution, elle nous appartient totalement. D'ailleurs, on devrait l'appeler la révolution américaine. Toutes les entreprises importantes d'IA du monde sont ici. Même si vous prenez les entreprises qui sont derrière, eh ben elles sont là aussi. Les fonds d'investissement, pareil, ils sont tous ici. Pour faire de la tech à grande échelle, il n'y a pas d'autre endroit que l'Amérique. Il n'y a rien ailleurs. Il ne se passe rien en Europe. Et franchement, qui a envie de monter une boîte en Chine ou en Russie. Non, ça se passe ici. Et c'est sans doute la première fois depuis qu'on a eu la bombe et que les autres nous l'ont volée qu'on a un tel avantage structurel.
Alors vous me direz, c'était il y a 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et donc, deuxième archive, on est en mai dernier, il y a 8 mois. Voici l'ancien patron de Google, Eric Schmidt. Une journaliste lui demande où les États-Unis se situent dans la course mondiale à l'IA.
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis sont très en avance sur la Chine et le reste du monde. Je pense qu'on va maintenir cette avance un bon moment. Nous avons 2 ou 3 ans d'avance sur la Chine, donc une éternité.
4 raisons à cette avance, selon Eric Schmidt. La Chine manque de puces Nvidia, de données, de capital risque et de recherche fondamentale.
Voilà, ça s'appelle se fourrer le doigt dans l'œil, donc.
Et pas qu'un peu. 8 mois plus tard, la communauté mondiale de l'IA est bluffé par le chinois DeepSeek, ses innovations, son ingénierie extrêmement intelligente et ses performances spectaculaires à moindre coût. On a bien vécu un moment Sputnik et d'ailleurs, SoftBank vient d'annoncer ce matin un investissement de 25 milliards dans OpenAI. Et on a demandé à l'une des meilleures spécialistes de l'IA en France, Muriel Popa-Fabre, chercheuse en IA, experte auprès du Conseil de l'Europe, de caractériser ce moment. Voici ce qui l'a le plus frappé depuis 8 jours.
J'ai appris que les Chinois se situent maintenant au niveau du produit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une très bonne performance en recherche, mais déjà devant un produit. Il y a une qualité de données, un travail sur la rapidité avec laquelle les réponses sont données en temps réel, le fait que ça soit open source, le fait qu'il y ait une compatibilité qui fait qu'en fait c'est extrêmement facile de faire une transition par rapport à OpenAI.
DeepSeek, ce n'est pas seulement un coup d'éclat dans la recherche, c'est un game changer, comme on dit, un produit qui va changer le marché et tout de suite.
Alors Stéphane, passé l'effet de surprise, qu'est-ce qu'il y a derrière DeepSeek ? Où en est l'IA chinoise exactement ?
On a posé la question à la chercheuse chinoise Adina Yakfu qui travaille pour la start-up franco-américaine Hugging Face.
Actually, there's a lot of hub AI happening in China.
En fait, il y a une grosse hype IA en Chine en ce moment. L'IA est déjà complètement intégrée dans la vie quotidienne des Chinois, peut-être même plus qu'ailleurs dans le monde. Que ce soit CapCut, l'app d'édition de vidéos qu'on utilise pour poster sur TikTok, que ce soit dans l'industrie ou même tous les taxis sans chauffeur, l'IA est vraiment partout dans notre vie. Et c'est pour ça que nos modèles d'IA se développent hyper vite. Ils sont à la base de tous ces produits. En fait, si vous voulez avoir un meilleur produit, vous avez besoin d'avoir un meilleur modèle.
Voilà, donc l'IA est bien avancée en Chine.
Et la tech chinoise a fait le choix de l'open source. C'est le deuxième enseignement de notre chercheuse.
Depuis 2023, l'open source est devenu une véritable stratégie en Chine pour que le secteur de l'IA se développe. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion des modèles d'IA open source en Chine, comme celui d'Alibaba ou de DeepSeek. Cette stratégie open source prend de l'ampleur partout dans le monde. Vous avez Llama aux États-Unis, Mistral en Europe. Donc, les boîtes chinoises s'adaptent. Tout le monde a bien compris l'intérêt de l'open source. Vous pouvez ajuster le modèle pour que ça corresponde à vos besoins et vous gagnez beaucoup de temps et d'argent.
Et là, c'est moi qui ai eu mon petit moment Spoutnik quand j'ai marqué ma surprise de voir un pays aussi autoritaire, strict, secret par certains aspects, opter massivement pour l'open source.
Je ne crois pas qu'on puisse dire que la Chine est un pays très fermé et très secret. C'est quand même un peu cliché de dire ça. Beaucoup de choses ont changé ces derniers temps. Vous savez, le secteur de la tech se développe très vite en Chine.
En fait, pour notre
expert... Elle vous a mouché, la dame.
Elle m'a mouché. Il ne faut pas voir la confrontation entre DeepSeek et OpenAI comme une rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais plutôt comme le duel entre les modèles ouverts et les modèles fermés.
Je ne crois pas qu'on devrait regarder la sortie de DeepSeek comme une menace pour je ne sais quel pays. En fait, il faudrait regarder ça autrement. Ce qui est frappant, c'est que le fossé entre les modèles ouverts et les modèles fermés se resserre fortement. Alors si les modèles ouverts et gratuits deviennent plus performants, ça veut dire que les modèles fermés vont devoir sacrément monter en gamme. Sinon, pourquoi les gens paieraient pour ces modèles ?
Et Spoutnik, dans tout ça, le petit satellite argenté est mort carbonisé dans l'atmosphère le 4 janvier 1958 après 1400 orbites autour de la Terre et 70 millions de kilomètres. Voici le bruit que faisait Spoutnik quand il était encore en vie. Éloigner les animaux.
On dirait qu'il pleure. Stéphane Jourdan, Stéphane Spoutnik Jourdan, merci beaucoup, vous reviendrez jeudi prochain.